Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du jeudi 23 novembre 2023 avec vous Eric Manirakiza. Voici d'abord le sommaire. Le président de la transition du Niger en visite aujourd'hui à Bamako pour renforcer les liens et la coopération. Poursuite judiciaire contre le ministre de la Santé limogé en Guinée pour des accusations de corruption et autres faits présumés. Campagne présidentielle en RDC, désistement, ralliement et aperçu des acteurs marquants jusqu'à présent.
Elle est très timide, la campagne électorale. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de moyens de campagne qui se sont déployés, aussi bien ici à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays.
Signature d'un accord entre l'ONU et Kinshasa pour le début du retrait de la mission onusienne dès le mois prochain. Les ONG jugent insuffisante la trêve de 4 jours pour l'aide humanitaire à Gaza et appellent à un cessez-le-feu. La vérité derrière l'histoire de Thanksgiving ici aux États-Unis, vous découvrez dans cette édition les faits entourant la célébration emblématique à Plymouth dans le Massachusetts, le lieu du premier repas de Thanksgiving.
À un moment donné, ils ont décidé qu'il ne s'agissait pas d'une menace et qu'ils célébraient simplement leur récolte. Ils se sont dit, nous sommes tous maintenant ici, alors nous allons tous manger.
L'ONU veut accélérer la vaccination contre le paludisme en Afrique après l'arrivée des premières doses au Cameroun. Les enjeux de la sécurité de l'intelligence artificielle et son impact sur nos vies mis en lumière avec le retour remarqué de Sam Altman chez OpenAI. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le chef de la junte militaire et président de la transition du Niger entame une visite à Bamako pour des échanges amicaux et de coopération. Son déplacement aujourd'hui intervient après la visite de son premier ministre il y a plus d'un mois. Plus de détails avec Mohamed Danyoko.
C'est ce matin qu'arrive à Bamako le général de brigade Abdourahmane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État de la République du Niger. Dans la lettre du ministère des Affaires étrangères adressée aux missions consulaires, cette visite serait une visite d'amitié et de travail qui va durer quelques 6 heures de temps. Cette visite du général Tchiani intervient après celle de son premier ministre Ali Mahamat Zain Lamine qui a eu lieu le 5 octobre dernier. Après l'entrée de l'armée malienne à Kidal, les questions sécuritaires seront certainement au cœur des échanges. Surtout que les deux pays sont, avec le Burkina Faso, membres de l'Alliance des États du Sahel qui a pour objectif de lutter contre le terrorisme dans la zone des trois frontières. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique. Bamako.
L'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko a mis fin à la grève de la faim qu'il menait depuis mi-octobre, ont annoncé deux responsables de son parti qui lui ont rendu visite en prison. Ils ont tous les deux assuré que M. Sonko était en excellente forme et avait le moral. M. Sonko avait été admis en réanimation dans un hôpital de Dakar après avoir perdu connaissance fin octobre et était à ce moment-là dans un état très faible selon ses avocats. Il a été écroué fin juillet sous plusieurs chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. La mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC a signé hier un accord pour le retrait progressif de ses troupes dès le mois prochain, mais sans donner de détails sur le calendrier. Dilidiko.
Bintou Keïta, la chef de la mission onusienne en RDC, et Christophe Lutundula Apala, ministre des Affaires étrangères, ont signé mardi un document déterminant le processus de retrait de la mission onusienne à partir du mois prochain. Dans un communiqué, la MONUSCO a déclaré qu'elle a co-signé une note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable du pays. La note contient un plan et un calendrier de retrait, mais la mission onusienne n'a donné que peu de détails, se contentant d'indiquer qu'il sera mis en œuvre en 3 phases. La MONUSCO est l'une des missions de maintien de la paix les plus coûteuses au monde, avec un budget annuel d'environ 1 milliard de dollars. forte de quelque 14 000 hommes, la MONUSCO est aussi très impopulaire en RDC. Elle est perçue comme n'ayant pas fait grand-chose pour mettre fin à la violence dans l'est du pays, où des dizaines de groupes armés demeurent très actifs. C'est Kinshasa qui a demandé le départ accéléré de cette mission onusienne.
En Guinée, plusieurs poursuites judiciaires engagées ce mercredi contre le ministre de la Santé, limogé il y a seulement 24 heures, pour des accusations présumées de corruption et autres faits. On fait le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
C'est une injonction faite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Selon Alphonse Charles White, le ministre de la Santé a profité de sa position pour signer des exonérations sur fond de présomptions graves de corruption, de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Les faits datent de 2015 et concernent l'exécution de la convention entre l'État guinéen et la société ZMC. Le ministre de la Santé devra fournir des documents comptables, des pièces qui n'ont jamais été jointes à la demande d'exonération, précise le garde des Sceaux. Les mêmes pratiques sont répétées dans la concession de l'hôpital Donka, où aucun contrat n'a été soumis. D'autres faits de corruption sont révélés par des documents comptables, des faits portant l'acquisition des vaccins dans le cadre de la campagne de vaccination, note le ministre guinéen de la Justice. Le ministre de la Santé a été limogé mardi par le colonel Mamadi Doumbouya. Zakaria Kamara pour VO Afrique, Conakry.
Les Nations Unies intensifient prochainement la vaccination contre le paludisme dans toute l'Afrique après l'arrivée de la première cargaison de doses au Cameroun. Yakuba Ouedraogo.
331 000 doses de RTS-S, le premier vaccin antipaludique recommandé par l'OMS, ont été livrées mardi à Yaoundé, capitale du Cameroun. Cette livraison indique que l'extension de la vaccination contre le paludisme dans les zones à risque du continent africain va commencer bientôt, ont déclaré l'OMS, l'UNICEF et l'Alliance Gavi pour les vaccins dans un communiqué commun. 1,7 million de doses supplémentaires devraient être livrées au Burkina Faso, au Libéria, au Niger et à la Sierra Leone dans les semaines à venir. Depuis 2019, plus de 2 millions d'enfants ont été vaccinés au Ghana, au Kenya et au Malawi dans le cadre d'une phase pilote. En 2021, l'Afrique représentait environ 95% des cas de paludisme dans le monde et 96% des décès liés à cette maladie transmise par les moustiques. Le nombre de décès a légèrement diminué pour atteindre 619 000 en 2021, dont 77% d'enfants de moins de 5 ans. Dans le même temps, le nombre de cas de paludisme dans le monde a légèrement augmenté pour atteindre 247 millions.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux personnes sont décédées hier mercredi à la suite d'une explosion d'un véhicule au niveau d'un pont frontalier entre le Canada et les États-Unis, près des chutes du Niagara. L'entrée en vigueur d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas prévoyant la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens n'interviendra pas avant vendredi, selon des responsables israéliens. Par ailleurs, plusieurs ONG jugent insuffisante la possibilité de cette trêve de 4 jours pour l'accès humanitaire dans la bande de Gaza, appelant à un cessez-le-feu davantage avec Alexandrine Relognon.
C'est insuffisant et ce n'est certainement pas assez en termes de droit, a affirmé Paul O'Brien, directeur exécutif d'Amnesty International aux États-Unis, lors d'une visioconférence avec Handicap International, Oxfam, Médecins sans frontières, Médecins du Monde et Save the Children. En 4 jours, nous ne pouvons pas apporter de la nourriture à 2 millions de personnes, des soins à 2 millions de personnes, a déclaré Daniel Azizi, responsable d'Handicap International, estimant que ce serait une goutte d'eau dans l'océan. Ces ONG appellent à la mise en place d'un cessez-le-feu et à l'ouverture d'autres points d'entrée dans la bande de Gaza que celui de Rafah à la frontière avec l'Égypte, afin de pouvoir atteindre davantage de zones de l'enclave palestinienne. Israël et le Hamas ont conclu mercredi un accord sur une libération d'otages retenus par le Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens, un accord qui prévoit aussi une pause humanitaire de 4 jours.
Le président américain Joe Biden s'est entretenu mercredi, c'était hier, avec les dirigeants du Qatar, de l'Égypte et d'Israël, au sujet de l'accord de libération d'otages et de trêve à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, a annoncé la Maison-Blanche. L'administration Biden a négocié aux côtés de ses partenaires qataris et égyptiens en faveur de cet accord annoncé mardi soir, prévoyant la libération d'au moins 50 otages aux mains du Hamas contre celle de plusieurs Palestiniens détenus par Israël et la cessation des hostilités pendant 4 jours. Le président américain a aussi évoqué avec ses interlocuteurs la question de l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza où la crise humanitaire s'amplifie. Vous suivrez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par John Linden.
Les chiffres d'affaires cumulés des startups spécialisées dans les technologies financières, les fintech actives en Afrique, devraient atteindre 15 à 20 milliards de dollars en 2028 contre 3 à 4 milliards de dollars en 2022. C'est ce que souligne l'agence Ecofin, s'appuyant sur un rapport publié le 24 octobre par le cabinet de conseil McKinsey & Company. Il n'aura fallu que quelques jours à Microsoft pour reprendre OpenAI en main en réinstallant Sam Altman, la star de la Silicon Valley, à sa tête avec un conseil d'administration remanié. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a joué un coup de maître lundi en annonçant embaucher Sam Altman, à peine évincé d'OpenAI, la pépite de l'intelligence artificielle à l'origine du logiciel ChatGPT. À peine élu président de l'Argentine le 19 novembre 2023, Javier Milei, le candidat ultra-libéral de l'extrême droite argentine, se revendiquant comme un anti-système, a annoncé plusieurs décisions choc, parmi elles celle de mettre un terme au processus d'adhésion de l'Argentine au club des BRICS effectif à partir de janvier 2024.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec vous ce matin. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On commence avec le mondial des moins de 17 ans. Eh bien, le Sénégal s'est incliné devant la France en huitième de finale.
Oui, après un score de 0 à 0 à l'issue du temps réglementaire, les Lionceaux de la Teranga sont tombés face à la France au tir au but, 5 tirs réussis contre 3. Le Mali et le Maroc ont arraché leur ticket pour les huitièmes de finale et vont s'affronter en quart de finale ce samedi 25 novembre. Une certitude donc, l'Afrique aura un représentant en demi-finale. Pour les autres quarts de finale, l'Allemagne fera face à l'Espagne, l'Argentine va défier le Brésil et la France affrontera l'Ouzbékistan.
En Afrique du Sud, l'avocat d'Oscar Pistorius espère une libération rapide.
L'avocat de l'athlète paralympique sud-africain condamné pour le meurtre de sa petite amie il y a 10 ans dit espérer que son client sorte le plus rapidement possible de prison s'il bénéficie d'une libération conditionnelle. Oscar Pistorius, 37 ans, va être présenté vendredi devant une commission de libération conditionnelle dans la prison proche de Pretoria où il est actuellement détenu. Des experts juridiques et un avocat de la famille de la victime ont pour leur part déclaré que si la libération conditionnelle est accordée, il pourrait s'écouler des semaines avant une libération effective. Pour rappel, dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar Pistorius a tué sa compagne, tirant 4 fois à travers la porte de la salle de bain de sa chambre. Arrêté au petit matin, il a affirmé l'avoir prise pour un cambrioleur.
Avant de nous quitter, Yacouba, on parle du président de la Liga, Javier Tebas, qui quitte ses fonctions.
Le président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas, a annoncé sa démission hier afin de briguer un quatrième mandat lors de nouvelles élections à une date qui reste à déterminer. Il y a quelques minutes, j'ai présenté ma démission en tant que président de la Liga avant la fin de mon mandat qui se terminait le 23 décembre, a déclaré Tebas sur son compte officiel X. Cette démission de Javier Tebas marque le début d'un processus avec la constitution dès hier d'une commission électorale chargée de l'organisation du scrutin, a précisé la Ligue espagnole dans un communiqué. Javier Tebas est pour l'instant le seul candidat à sa succession et aspire à un quatrième mandat consécutif à la tête de l'entité qu'il dirige depuis 2013. En attendant l'élection, la Liga sera gérée par les vice-présidents de l'instance, Miguel Angel Gilmarín, le patron de l'Atlético Madrid, et Kiko Catalan, celui de Levante.
C'était le tour de l'actualité sportive avec Yacouba Ouédraogo.
Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kizado retourne avec vous pour les dossiers du jour. La campagne électorale bat son plein en RDC depuis dimanche avec des désistements et des ralliements pour la présidentielle. Quel bilan jusqu'ici qui se distingue parmi les acteurs en lice? Eddie Isango s'entretient au téléphone avec Jean-Marie Kassamba, président de l'Union de la presse à Kinshasa et directeur général de la radio-télévision 50. Jean-Marie Kassamba.
Écoutez, la campagne électorale a commencé depuis ce dimanche dernier. Elle est timidement lancée à partir de Kinshasa pour Félix Tshisekedi. Mais c'est vers Kisangani que Moïse Katumbi a préféré lancer la sienne. Elle est très timide, la campagne électorale. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de moyens de campagne qui se sont déployés, aussi bien ici à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. C'est comme si il y a moins de effervescence dans les chefs de candidats eux-mêmes et la population y participe d'une manière assez clairsemée.
Vous avez cité deux candidats, mais il y a 26 candidats. Bon, on a appris qu'il y aurait des ralliements, mais quels sont les principaux candidats qui sortent du lot? Combien sont-ils à peu près?
En réalité, c'était les duels Tshisekedi Katumbi qui s'annonce, parce que les autres candidats sont soit des circonstances, soit n'ont pas suffisamment d'ancrage et n'ont pas de moyens de leur politique. Fayulu allait être un candidat de taille s'il n'avait pas tergiversé un tout petit peu dans la participation à ces scrutins. Maintenant, les choses se dessinent. D'un côté, Félix Tshisekedi peut rempiler, mais avec beaucoup de difficultés, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont déployés de part et d'autre. Et puis, il y a beaucoup de désinformations sur son bilan, sur la réalité des terrains, etc. Mais l'inconnu de tout ceci, c'est plutôt Katumbi, parce que à part le ralliement, il a suffisamment déployé de la logistique. Et son discours est plus ancré sur le bilan et les conditions de vie des Congolais.
Vous citez Katumbi, mais dans l'opposition, tout le monde n'est pas derrière Katumbi. Il y a par exemple le docteur Denis Mukwege. Et d'ailleurs, après les réunions de l'Afrique du Sud, il semble aller en ordre dispersé. Ne pensez-vous pas qu'ils vont sélectionner les deux buts de la campagne?
Bon, je pense que Mukwege, il est un candidat, on va plus au niveau de la communication internationale, parce que au-delà de la cause noble hein, qu'il a défendue depuis longtemps, il n'a pas suffisamment d'assises, notamment à l'Ouest, mais la population adhère facilement à son combat. Mais le programme présenté, même s'il a Didier Mumengi, qui est un excellent analyste, un bon écrivain et surtout un intellectuel détail, il n'a pas encore réellement convaincu, parce que ces quelques sorties de Mukwege ne sont pas très emballantes par rapport à la population, etc. Il pourra, tout compte fait, je pense, rallier soit Katumbi, soit peut-être faire allégeance à Tshisekedi, ce qui n'est pas très probable.
Pas à Fayulu.
Bon, Fayulu, il se cherche encore. Je vous ai dit qu'il a fait gripper sa démarche avec ses tergiversations quant à l'entrée effective dans le processus.
Jean-Marie Kassamba, président de l'Union de la presse à Kinshasa et directeur général de la radio-TV Télé 50 à Kinshasa.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Chaque année, les Américains célèbrent Thanksgiving le quatrième jeudi du mois de novembre, commémorant le repas partagé amicalement entre colons anglais et autochtones en 1621 après une récolte fructueuse. Quelle est la part de vérité derrière l'histoire traditionnelle de Thanksgiving? Pour en savoir plus, Maura Mekwar s'est rendue à Plymouth, dans le Massachusetts, où a eu lieu le premier Thanksgiving. Récit d'Ilidico.
À Plymouth, dans le Massachusetts, où a eu lieu le premier Thanksgiving, se trouve un musée d'histoire grandeur nature. Le mode de vie des pèlerins et les traditions de Thanksgiving y sont recréées pour les visiteurs. Les Wampanoag, le peuple indigène qui a partagé le premier Thanksgiving avec les colons anglais, sont également représentés. Malissa Costa est membre de la tribu Wampanoag. Elle supervise l'exposition.
Les Wampanoag sont toujours là. Je veux qu'ils sachent que les Wampanoag ne font pas partie du passé et que les peuples indigènes, eux non plus, ne font pas partie du passé. Ils sont présents et ils continuent de se frayer en chemin. Ils continuent à éduquer le public.
Richard Pickering, historien en chef du musée, explique que le premier Thanksgiving a été marqué par le respect mutuel.
Ce qui se passe à Plymouth à l'automne 1621 relève du plus haut niveau de la diplomatie.
Les Wampanoag qui dispose aujourd'hui d'une petite réserve à proximité, ont conclu une alliance avec les pèlerins. Ils ont même aidé les nouveaux arrivants à survivre à leur deuxième hiver, très rigoureux, en leur apprenant à planter des cultures et à vivre de la terre. Écoutons l'historien Richard Pickering.
Nous ne devrions pas projeter une quelconque forme de méfiance ou d'animosité sur cet événement.
La manière dont les deux parties en sont venues à partager le repas n'est pas très claire. Paula Peters, citoyenne tribale et éducatrice, affirme que les pèlerins ont tiré des coups de feu et que les Wampanoag sont venus voir ce qui se passait.
À un moment donné, ils ont décidé qu'il ne s'agissait pas d'une menace et qu'ils célébraient simplement leur récolte. Ils se sont dit, nous sommes tous maintenant ici, alors nous allons tous manger.
Historiens et autres personnes travaillant sur le sujet émettent des hypothèses sur ce qui a été mangé pendant le festin de 3 jours.
Les Wampanoag sont allés chercher de la volaille qui n'était peut-être pas de la dinde et des canneberges car c'était le fruit de la saison.
Il y avait aussi des fruits de mer, du poisson.
Nous savons qu'il y a eu de la viande de cerf.
Ce qui n'est pas contesté, c'est l'histoire des bouleversements et des destructions que les Amérindiens ont subies après l'arrivée de plus de colons blancs. À nouveau, Richard Pickering.
Ils voulaient leur terre, ils voulaient qu'ils quittent leur terre et c'est ainsi que l'on a assisté à un changement d'attitude, passant d'une attitude d'admiration à une attitude de stéréotype et de dérision. Et c'est cette façon de penser qui leur a permis de vouloir les chasser de leur terre sans aucun sentiment de culpabilité.
À l'origine, les pèlerins sont venus en Amérique à la recherche de liberté religieuse, mais apparemment pas pour tout le monde, explique Paula Peters.
Ils ont tant sacrifié pour la liberté de religion, mais ils n'ont pas offert la même grâce au peuple indigène qui vivait ici au départ.
Comme beaucoup d'Américains, Peters et Costa prévoient de passer Thanksgiving en famille. Mais elles penseront aussi aux sacrifices de leurs ancêtres.
Le comté de Montgomery, dans l'État américain du Maryland, a donné le coup d'envoi des fêtes de fin d'année avec son traditionnel défilé annuel de Thanksgiving. Sims Lumami nous plonge dans l'ambiance du lancement des festivités le week-end dernier à Silver Spring. Le récit avec Alexandrine Rologno.
De grandes dindes et pingouins gonflables, des fanfares, des groupes de danseurs ont rempli les rues adjacentes à Veterans Plaza dans le centre-ville de Silver Spring. Des centaines de personnes sont venues assister à la parade annuelle de Thanksgiving du comté de Montgomery. Emily Ganzo, participante au défilé.
C'est un excellent moyen de sortir et d'être avec notre communauté et de montrer à nos enfants toutes les différentes cultures que nous côtoyons et avec lesquelles nous vivons. Et oui, c'est un excellent moyen de sortir et de célébrer Thanksgiving.
Le défilé est l'occasion pour les parents et les enfants de passer une journée ensemble. Taylor est participant au défilé.
Nous sommes ici pour voir le défilé. Nous voulions amener les garçons à assister à la parade. Nous habitons à quelques kilomètres d'ici.
Particulièrement fiers d'entretenir l'esprit de fête, de nombreux habitants de Silver Spring sont sortis avec enthousiasme. Ils sont arrivés très tôt pour soutenir leurs enfants qui participaient ou dansaient pendant le défilé. Gilbert Mbeng, participant, originaire du Cameroun.
The showcase,
Cette manifestation est importante parce qu'elle présente différents aspects de la culture du monde entier. Elle permet également de sensibiliser les communautés en invitant les vendeurs à venir présenter ce qu'ils font. Et c'est toujours un honneur en tant que parent de venir célébrer et soutenir sa fille.
Silver Spring est une ville du comté de Montgomery qui ne cesse de croître et qui compte de nombreuses communautés d'origine et de cultures différentes. Ce qui confère à cet événement une importance toute particulière. La parade met en valeur non seulement la diversité culturelle, mais aussi le talent des artistes. Un événement fantastique pour tous les âges. Connor Sheen, participant au défi.
Honnêtement, c'est le moment idéal pour se réunir avec des amis et les remercier pour tout ce dont ils sont reconnaissants. On mange bien et on s'amuse, alors oui, c'est une belle fête dans l'ensemble.
Valérie Guzman, participant au défilé.
C'est probablement la 10e ou la 15e fois que je viens ici. C'est le coup d'envoi de la saison des fêtes de fin d'année. Et Thanksgiving est le premier événement de la saison, ce qui est très important pour nous et notre famille, parce que c'est l'un des rares moments où nous pouvons tous nous réunir et apprécier les cadeaux que nous avons tous reçus et la famille que nous formons.
Au fil des ans, ce défilé a pris de l'ampleur et de l'importance, notamment en raison de l'évolution et de l'augmentation constante de la population du comté, au grand bonheur des habitants de Silver Spring.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Toujours ici aux États-Unis, le créateur de ChatGPT, Sam Altman, fait un retour remarqué chez OpenAI. Une semaine après son départ mouvementé, soulevant des questions sur la sécurité de l'intelligence artificielle pour tous. Ce revirement met en lumière l'impact des technologies d'intelligence artificielle générative sur nos vies quotidiennes. Arzuma Compaoré pour plus de détails.
L'annonce d'OpenAI de la réintégration de Sam Altman en tant que PDG avec un nouveau conseil d'administration fait suite à des menaces de démission massive de la part des employés et une pression croissante des investisseurs, notamment Microsoft, investisseur majeur et détenteur des droits de la technologie actuelle d'OpenAI. Le retour d'Altman et la réforme du conseil d'administration, incluant des figures telles que l'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers, sont perçues comme des étapes vers une gouvernance plus stable et efficace. Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, l'outil a suscité des débats dans le monde de l'éducation. Sciences Po Paris a interdit l'utilisation de ChatGPT sans citation appropriée, tandis que l'Université de Middlesex à Londres voit en l'IA un allié potentiel dans l'éducation. Myriam Dubois-Moncachy est directrice des affaires académiques à Sciences Po Paris.
Ça veut dire que les étudiants n'ont pas le droit d'utiliser ChatGPT pour obtenir une note. Voilà. S'ils utilisent cette intelligence artificielle, ils rompent le contrat de l'honnêteté intellectuelle. Parce que le travail n'est plus un travail personnel, ni un travail sourcé.
Balbir Barn est un doyen académique à l'université Middlesex.
Il est important qu'en tant qu'universitaire, nous formions des étudiants à comprendre comment utiliser ces outils de manière efficace et critique, à reconnaître leurs limites et à les intégrer à leur arsenal plutôt qu'à les rejeter.
That universities must reject.
Avec sa croissance rapide, ChatGPT a captivé le monde de la technologie, attirant un éventail d'utilisateurs comprenant plus de 2 millions de développeurs et plus de 92% des entreprises du Fortune 500, selon des chiffres donnés lors de la première conférence des développeurs d'OpenAI à San Francisco, début novembre. Moussa Touré, PDG et cofondateur du moteur de recherche Mayan, souligne l'importance de l'adoption de l'IA en Afrique, notamment en développant des modèles d'IA adaptés aux besoins du continent et capables de comprendre une multitude de langues locales.
L'objectif, c'est déjà d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle sur le continent africain. On essaie avec un partenaire qui s'appelle SAH Analytics, qui est basé en Côte d'Ivoire, de trouver les meilleurs modèles d'intelligence artificielle qui vont être nécessaires pour le continent africain. Maintenant, il faut que l'intelligence artificielle soit en capacité de comprendre les 500 000 langues qu'on va avoir dans un seul pays. Mais clairement, ça va complètement changer la façon dont ma mère peut communiquer à Kaï, au Mali, avec ma grand-mère qui a 90 ans et qui peut-être utiliser l'intelligence artificielle. Parce que ça sera accessible à tout le monde, depuis un clavier.
Alors qu'OpenAI continue de révolutionner le domaine avec sa suite étendue d'outils d'IA, le potentiel d'impact mondial et d'innovation s'accroît. La course à l'IA générative n'est pas seulement un saut technologique, c'est aussi un pont vers un avenir où l'IA fera potentiellement partie intégrante de tous les aspects de notre vie, de la Silicon Valley aux rues d'Afrique.
Le Monde aujourd'hui avec Eric Manila Kidza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Michel Claire Joseph a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et sur toutes nos plateformes.